vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Je vais écrire à ton frère qu'il arrête de s'ennuyer avec cette histoire idiote. Viens.
Et Denis et son père sortent du bureau. Son père va à son bureau.
Pour écrire à Nicolas.
Denis entre dans sa chambre. Et là, il voit sur la table l'agrandissement de la photo. Il décide de ne rien dire et de la garder.
Nicolas a reçu la lettre de son père. Décidant de laisser son frère tranquille avec cette histoire, il décide de ne pas lui répondre et de continuer son enquête. Les jours passent. Un matin, pendant un petit déjeuner que Denis prend seul avec sa mère, il lui demande
« Mère, est-ce que vous connaissez la dame en noir ?»«
Mais non,
j'aimerais tant savoir pourquoi j'ai été séquestré. »«
C'est sûrement pour de l'argent, mon petit. »
Le soir, en revenant des cours, juste où il va entrer au salon, il entend sa mère dire
« Il ne trouvera rien. »
Et son père dit «
Tu lui as dit, pour le cadavre du mur. Que nous veut-elle?
Pourquoi a-t-il gardé la photo?
Son mari répond.
Un oubli. Et puis, il n'y a qu'une vieille photo. On ne voit rien.
Nicolas s'en retourne à part de loup pour entrer dans sa chambre. Guillaume est dans le lit avec Nicolas. Nicolas le caresse, le suce, lui touche les fesses, suce les couilles et la queue. Il lui dit son amour. Et lorsque Guillaume a fini de jouir, il reste un moment à se caresser. Puis,
Guillaume se lève. Pour aller se nettoyer.
Nicolas lui dit avant qu'il ne sorte de la chambre, nettoie-toi bien, pisse bien et viens. Guillaume lui dit, encore? Nicolas lui répond, oui, que veux-tu? Tu n'avais qu'à pas être aussi bon, je ne peux pas me rassasier de ton corps. Viens vite.
Nicolas pense toujours à Y, mais Y, même s'il était encore vivant, serait un ange. Il aurait aimé comme on aime un jeune dieu.
Nicolas et Guillaume vont souvent au théâtre, cabaret, cinéma, ils vont se promener dans la campagne, faire de longues marches.
Sylvie donne de ses nouvelles. Elle fait un reportage de photos en Australie. Là-bas, elle a rencontré un homme d'affaires qui a des mines de diamants en Afrique, des centrales électriques en Australie, une usine de chaussures et une compagnie d'assurance. L'homme est veuf et cherche à se marier. Il trouve la sœur à son goût. Il fait des fêtes à son honneur. Il lui envoie des bijoux, des roses par milliers. Tout Sydney est au courant. Et on lui dit qu'elle devra accepter son amour. Collier de perles, voiture, diamant.
Bonsoir Tom, comment vas-tu?
Bien.
Content de te voir.
Merci. Allez,
non,
merci
même de faire des photos. Pour cela, ils prennent un bateau pour suivre le fleuve.
Si j'ai bien compris ton message, tu aimerais...
À chaque escale, il a prévu des danses, des balles, des réjouissances pour elle, comme si elle était une reine.
Oui.
Un soir, de bal, il lui manque sa main. Elle accepte. Comment elle aurait-il pu faire autrement, avec tout ce monde autour d'elle, ces cadeaux qu'il lui a faits? On l'aurait prise pour une femme malhonnête qu'elle avait refusée. Il est fou de joie et décide de se marier le plus vite possible. Elle se sent prise dans un tourbillon. Elle a l'impression d'avoir été achetée.
Nous avons fait nos études ensemble.
Voilà.
Il est toujours aussi charmant.
Lorsqu'elle voit tous les cadeaux qu'elle a reçus, entassés dans sa chambre d'hôtel, à leur retour de voyage, elle se demande comment elle a pu faire pour accepter tout ça. Je suis folle ou inconsciente? Maintenant je le paye. Mais elle a honte de ce qu'elle vient de penser. Et se dit, le pauvre doit l'aimer dont m'aimer de toute son âme. Mais aussi, moi aussi je dois l'aimer, parce que c'est l'être le plus noble qui soit. Il est comme les chevaliers du temps ancien. Faut être heureuse d'être aimée comme ça. Mais ne le peut pas, parce qu'à chaque fois qu'il est près d'elle, elle se sent comme un malaise. Elle s'aperçoit qu'avec sa gentillesse, sa politesse, il peut faire tout ce qu'il veut. La façon de faire est plus autoritaire que l'autorité même. Il lui impose ses habits, sa coiffure, son emploi du temps. Malheureusement, elle se dit que puisque le mariage est lancé, elle ne peut plus reculer. Le mariage est annoncé. Elle invite sa famille. Seul Nicolas et Guillaume peuvent y aller. La mère lui écrit pour lui souhaiter beaucoup de bonheur et qu'elle viendra plus tard la voir avec Denis. Nicolas et Guillaume retrouvent Sylvie dans une immense maison en pleine brousse, sur un immense territoire. La maison a un ranch avec des chevaux, golf, piscine. Il y a même une piste d'aviation. Tout ça donne du travail à de nombreux domestiques. Ils sont arrivés en avion privé. L'avion privé les a pris de Paris. Ils n'ont pas eu le temps de voir leur sort car on les a amenés tout de suite pour le mariage à la mairie du village et dans la chapelle toute blanche en plein champ.
Attendre la valse.
Non, ça passe pas.
Je peux vous faire changer d'avis?
Non.
Il y a 1000 invités, que des intimes du mari, tenue de soirée pour le cocktail et tout. Ça se passe devant la maison, orchestre, etc. Nicolas peut enfin voir sa sœur. Il lui demande, es-tu heureuse? Elle lui répond, oui. Mais je suis un peu perdu et pris dans ce tourbillon.
Vous voulez un verre?
D'accord.
Servez-en deux.
Vous êtes avec eux?
Que voulez-vous dire avec eux?
Ces hypocrites, ces arrivistes qui se réjouissent d'avoir 4 ans devant eux pour faire ramener le reste du monde. Vous en faites partie?
Non.
Je parie le contraire.
Nicolas et Guillaume restent une semaine chez leur sœur et son mari. Visitent le pays, plage, soirée, réception. La sœur, en leur disant au revoir, semble vraiment triste de les voir partir. Elle leur dit « Je me sentais affreusement seule au milieu de tout ce monde. » Après votre départ, elle les embrasse et dit « Dites à père, mère et Denis que je pense beaucoup à eux. » Cela lui dit « Nous ne manquons pas et nous reviendrons. »
The delayed departure of flight number RA714 for Kathmandu due to technical problem. Thank you. Priyansi Nivedan ka kehne ki udan number RA714 pravidik karan se der ho gayi hai.
Et ils sont repartis pour Paris. Et la vie reprend pour eux à Paris. Les jours passent. Nicolas Guillaume retrouve à Lyon voir la famille de Nicolas. Nicolas veut parler à son frère de la femme en noir, la femme inconnue sur la photo. Il a pris la photographie originale. Et Denis a la copie. Donc Denis lui a écrit la réaction de la famille. Le premier soir de leur visite, alors que tout le monde est dans leur chambre, Nicolas va dans celle de son frère.
Entrez. Son frère est déjà au lit. Il s'approche du lit. Il s'assoit sur le rebord du lit.
Nicolas lui dit, je suis venu te voir, tu sais pourquoi, c'est pour parler de la photo. Denis lui dit, j'avais compris, mais je crois que nos parents connaissent la dame en noir. Nicolas lui dit, mais pourquoi nous en veut-elle? Qui est-elle? Denis lui dit, il faudrait peut-être chercher où la photo a été prise. Comme cela, nous aurons un point de départ. Nicolas demande, mais comment? Des parcs comme celui-là, il y en a des tas. Denis lui dit, voir si nos parents n'ont pas habité une maison, ou s'ils ne connaissent pas des amis qui habitaient une maison, ou s'ils n'étaient pas près d'une maison. Et comment? En cherchant les adresses où ils ont habité. Nicolas lui dit, ils n'ont vécu qu'en ville. Denis lui dit, j'irai tout de même voir les lieux avec la photographie. Demain, Denis retourne au grenier pour prendre les enveloppes, lettres, factures, tout ce qui a une adresse où les parents ont habité. Puis, il les met dans l'ordre chronologique et regarde aussi le livre de photos pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble au jardin ou à la femme. Il ne trouve rien, mais voit des photos qui ont été enlevées depuis longtemps à cause des traces qu'elles ont laissées sur le carton. Puis, le soir, Denis va à la chambre de son frère.
Entrez. Entrez. Le frère est assis à une table. Guillaume fait sa toilette dans la salle de bain. Denis va vers lui et s'assoit à côté de lui.
D'après mes recherches, tes parents habitaient à 5 endroits différents. Un vieil immeuble vétuste de la rue de la Guillotière, au fond d'une cour. Il y a bien dans la cour un arbre rabougri, mais rien qui correspond à la photo. Voilà pour le moment. Demain, je vais voir le deuxième endroit. C'est rue Garibaldi, une petite maison. Mais la maison a été démolie. Un grand immeuble l'a remplacée. Le lendemain, Denis va à rue Garibaldi, près de l'endroit où était la maison. Il veut absolument savoir et il va au culot. Il demande dans la rue où chez les commerçants. Il y a des personnes âgées du quartier. Si la photo leur rappelle quelque chose, si la femme ou le décor. Les gens lui disent non, oui. Peut-être. Un vieil homme, Jean Claudeau, barbe et cheveux grisonnants, avec des yeux étranges, habillé d'un vieux manteau sale noir. Il a un côté qui fait peur. Denis lui montre tout de même la photo. Il le regarde et lui dit « Qui vous a donné cette photo ?» Elle lui dit quelque chose ? Vous connaissez la personne ?
On ne doit pas réveiller de vieux souvenirs. Vous risquez des ennuis.
L'homme a le regard menaçant et fait peur à Denis, qui lui demande tout de même « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous la connaissez ?»«
Pour mon malheur, je sais des choses. Mais elle vient souvent. Elle a peur que je parle. »«
Qui ? La dame en noir ? Dites-moi tout. Je suis avec vous. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. »
Si je parle, elle me tuera.
Non, personne ne le fera. Personne. Je suis ici.
C'est-à-dire, je vais vous le dire.
Tout à coup, une voiture montée sur le trottoir, foncée sur lui et l'a fait tomber. Elle a continué sa route. Denis, qui a tout juste le temps de se retirer, se penche vers l'homme à terre. Et lui demande « Que vouliez-vous me dire ?»«
Il est trop tard. La dame en noir. »
Et il meurt. Denis, affolé, se sauve en courant. Puis, au bout d'un moment, il s'arrête de courir. Il veut aller à la police, dire ce qu'il a vu et dénoncer cette dame en noir. Mais il se rétracte. Il prendrait pour pas au sérieux. De retour chez ses parents, il va, va à la chambre de son frère pour tout lui raconter.
tout dit. J'aurais pu retourner rue Garibaldi. Mais je sais que c'est là qu'est la réponse de l'énigme. Nicolas lui dit, sûrement que la dame en noir habite le quartier et que l'on peut savoir qui elle est. Denis lui dit, malgré ma peur, je tâcherai de me renseigner. Semaine plus tard, il retourne dans le quartier et cherche dans les voitures en stationnement vieille Mercedes noire. Il fait le tour du quartier, demande au garagiste, rien. Elle est peut-être garée au fond d'une cour, mais comment savoir? Alors il demande au concierge, au commerçant, femme, âgée, petite maigre, lui dit, j'ai vu souvent passer cette voiture, comme celle-là. Je la reconnais bien, car elle me rappelle une voiture de pompe funèbre. Denis lui demande, elle se dirigeait dans quelle direction? Toujours la même direction, boulevard des Belges. Nicolas ne peut laisser tout faire à Denis. Il va tout de même voir la troisième résidence où ses parents ont habité, sur les quais de Saône, direction Perrache, un petit immeuble ancien de 4 étages. Il va se renseigner chez le concierge.
À la porte.
Lui a ouvert un petit homme tout maigre, cheveux gris, habillé d'un pantalon gris, trop grand pour lui, tenu par une ficelle et un vieux pull trop tout sale. Gris aussi, enfin qui a été gris. Nicolas lui dit, je m'excuse de vous déranger, monsieur, mais j'aimerais c'est des renseignements sur des gens qui ont habité ici il y a quelques années déjà.
Je vous en prie, monsieur, entrez. Justement, je m'ennuyais.
Il le fait entrer dans une pièce sombre, car les volets sont fermés. Il y a un évier sale avec de la vaisselle parfaite, une table pleine de chaises, de choses, une chaise. C'est bizarre. Pas très propre. Ça sent l'humidité et la saleté. Vous voulez boire quelque chose? L'homme lui tend un verre sale. Nicolas voit avec dégoût passer sur la table un cafard. Non, merci. Petit homme lui dit.
Avant, je travaillais chez mon frère. Et je suis à une chorale de négros. Je fais une émission de radio dans une radio de gauche. Mais moi, je suis de droite. Je connais très bien Lyon et le quartier.
Justement, monsieur, j'ai une photo à vous montrer et vous pourriez me dire ce que vous en pensez, si elle vous dit quelque chose.
Sort la photo de sa poche et la donne au vieux qui la regarde.
Il me semble que je connais cette personne, mais je ne sais pas. Ah oui, je me souviens. Elle vient souvent dans le quartier, une dame en noir. Et elle lui ressemble. Elle semble chercher quelque chose. Où va-t-elle? Elle marche dans les rues, entre dans les allées, ou reste dans sa voiture. Mais elle a un côté qui fait un peu peur. On dirait qu'elle est morte.
Est-ce que le décor de la photo vous dit quelque chose? Des arbres, le bout de façade de la maison? Non?
Oui, peut-être, il me semble. Ah oui, la façade me dit quelque chose. Lorsque j'avais 20 ans, on m'avait offert un cinéma 8000 mètres. Nous avons été chez des amis, il y avait une maison dans un parc. Et à côté de la leur se trouvait une maison qui ressemble. Cette maison ressemble à la façade qu'il y a là.
Où est la maison?
À cette fois. Ce n'était pas vraiment une maison, mais un château. Attendez, j'ai fait un petit film durant mon séjour. Vous allez voir, le château, à côté de chez moi. Je me suis amusé dans le parc à faire de l'image par image. Et en faisant bouger une tondeuse à gazon.
Le vieux va chercher son film et son projecteur. Elle prépare la projection.
Elle projette le film sur le mur. On le voit bien au fond, une façade qui ressemble à celle de la photo. Nicolas lui demande « Qui habitait ce château ?»«
Je ne sais pas, je crois une famille très riche, peut-être des nobles, mais renseignez-vous là-bas,
donnez-moi l'adresse. » L'homme la lui donne. Nicolas retourne chez ses parents, raconte tout à Denis et lui donne l'adresse. Malheureusement, je ne peux pas rester plus longtemps à Lyon. J'ai un film à préparer. Tâche de te renseigner.
Tu pars quand?
Demain matin.
Une fois que son frère est parti, Denis va à Sainte-Foy. Il trouve le château. Le portail est fermé, mais à travers les grilles du portail, il peut voir la propriété qui semble ressembler à la photo. Alors, il décide de se renseigner. Il va rentrer dans une mercerie qui est dans la même rue que le château.
La vendeuse, une vieille femme, petite, habillée de noir, cheveux blancs.
« Vous désirez, monsieur ?»«
Bonjour, madame. J'aimerais, c'est des renseignements au sujet du château. À qui appartient-il ?»«
À des religieuses, monsieur. À qui on leur avait donné. Elle en avait fait une maison pour des filles perdues, enceintes, prostituées, etc. Il y avait... Ça y allait à la cravache avant ça. Les religieuses ont tout transformé, tout cassé. Quel dommage! Les salles de bain, les salons. Et puis, il y a 20 ans, elles l'ont fermé. À qui appartient-il?
À personne, monsieur.
Et avant, à des gens très riches. Des comtes, je crois. Ils ont dû partir en Amérique.
Denis lui montre la photo. La femme la regarde et lui dit,
mais c'est la dame en noir. Une femme qui vient souvent par là.
Vous savez qui elle est?
Non, elle vient souvent par ici. On la voit passer et c'est tout.
Vous ne savez rien d'autre sur le château?
Non.
Merci, madame.
En entrant chez lui, le domestique lui dit
« Votre père veut vous parler. Il est à son bureau. »
« Bien, j'y vais, monsieur. »
« Entrez. »
Le père est à son bureau.
« Approche. »
Je n'ai qu'une chose à te dire, c'est d'arrêter de t'occuper de ce qui ne te regarde pas.
Mais j'ai été agressé, séquestré, je tiens à savoir pourquoi.
Pour ta gouverne, je tiens à te dire ce que j'ai reçu une lettre. J'ai payé. Je n'en l'ai pas dit à la police ni à personne pour ta sécurité. C'est tout, la chose est close. Alors je te donne l'ordre, c'est de ne plus t'occuper de cette histoire et de reprendre tes études.
Mais j'ai appris des tas de choses. Tu n'as rien appris du tout.
À Paris, un jour, Nicolas reçoit une lettre anonyme. Il lui dit qu'il faut qu'il dise à son frère d'arrêter de chercher la dame en noir. Que la dame en noir ne lui veut aucun mal, ne veut aucun mal à Denis. Qu'il est peut-être celui qui a la solution de tout, mais que la dame en noir ne peut pas toujours être à ses côtés. Que la mort l'a déjà frappé, et lorsqu'elle frappe une deuxième fois, ce sera pour de bon. Notre famille a une dette envers moi. Ils paieront, sauf Denis, qui est peut-être des nôtres. En vérité, qui est-il? Qui est quoi? Toi, avec tes histoires, tu dois bien savoir qu'il est difficile à répondre. Il suffit d'un mot pour faire basculer un personnage de blanc. Il devient noir et on ne sait plus qui est, qui ce qui. Laisse tomber, ne vous occupez plus de ces choses qui sont l'envers du décor et de la vie.
P.S. Dites à Denis de rester tranquille et d'oublier si vous l'aimez et vous ne voulez pas qu'il lui arrive quelque chose.
Nicolas écrit à Denis de laisser tomber. Denis, pour répondre, va le voir à Paris. Nicolas, en le recevant, lui dit
« Il faut rester tranquille. T'occupe plus de rien, » Denis lui dit.
Mais je sais presque tout,
Nicolas lui dit.
Non, rien, c'est truqué, compliqué, laisse tomber, fais-le pour moi qui t'aime.
Denis soupire et lui dit.
Bien,
car il voit que son frère y tient et a peur pour lui.
Mais il lui dit. Je me demande pourquoi nos parents qui doivent savoir la vérité ne disent rien.
Peut-être un secret de famille,
Cola lui dit. Oui, tu as raison. Alors c'est encore mieux que tu ne t'en occupes pas.
Denis lui dit. Je te le promets.
Et il passe une semaine avec son frère et Guillaume. Il ne parle plus de cette histoire. Puis, sur le quai de la gare de Lyon, Denis dit à son frère :
je te jure que je ne m'occuperai plus de cette histoire.
Nicolas l'embrasse et lui dit :
merci, oublions tout.
Et Denis monte dans le train. Là, il s'assoit dans un compartiment seul. Voyage, il a l'impression qu'un homme le surveille. Durant tout le trajet, il est resté debout devant la porte de son compartiment. C'est un homme grand, fort, avec un manteau et un chapeau noir. Il semble constamment l'observer. Même si Denis ne voit pas son visage, du rebord du chapeau, il sent que cet homme est menaçant. Cela irrite Denis. Gare de Perrache.
Attention sur votre cas, le train 5047 à destination de Narbonne.
Denis sort du compartiment sans oser regarder l'homme, mais sait qu'il le suit. À la sortie de la gare, l'homme le suit toujours. Denis marche d'un bon pas et traverse la rue.
Tout à coup,
il a entendu une voiture aller à vive allure derrière lui. Il se retourne et voit l'homme qui le suivait à terre sur la chaussée. La voiture a disparu. L'homme a du sang sur la tête. Il ne bouge pas. Denis est tout blanc. Il sent qu'on le maintient. Un homme de taille moyenne, cheveux châtains, par-dessus gris. Vous n'êtes pas bien ? Venez, allons voir. Venez, nous allons prendre un petit remontant. Et le fait asseoir à une table. Commande un remontant.
Un cognac, merci.
L'homme lui dit : vous n'avez rien à craindre, du moment que vous ne cherchez pas. Je suis là pour vous protéger, la preuve. Denis lui demande : mais qui êtes-vous ? Il lui sort un cognac. Une personne qui veut vous du bien.
connais tout. Il se lève et quitte le café. Denis boit son verre et sort à son tour, intrigué. Il décide de faire le mort car cette histoire lui paraît trop compliquée et dangereuse. Nicolas à Paris lui aussi fait le mort et décide de vivre comme si de rien n'était. Alors, pour se changer les idées, il décide de trouver un sujet de film, la meilleure solution pour sortir de sa vie. Mais quoi comme sujet? Il reste enfermé plusieurs jours chez lui à réfléchir, assis à son bureau. L'histoire commence par un homme très riche, action, immeuble, etc., etc. Il se marie avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Elle est très belle. La femme a accepté de se marier avec lui pour son argent et il le sait. Mais il s'en fiche, ce qu'il veut c'est un héritier. Elle lui donne un garçon, le père est fou de joie, la mère aussi. L'enfant est pourri de cadeaux. Le père lui donne son premier billet de 500 francs à 4 ans. L'enfant adore ses parents. Malheureusement, le père meurt d'une crise cardiaque. L'enfant a beaucoup de peine et ne se remet pas de cette perte. La mère et le fils vivent tous les deux avec des domestiques dans une immense maison au fond d'un parc. Ils vivent des rentes que a laissées le père. Un jour, la mère, en ouvrant une vieille commode, trouve des pièces d'or et des lingots. Alors la mère et le fils s'amusent à en chercher dans la grande maison du père. Ils en trouvent. Cela les fait rire. La mère apprend à son fils à compter avec des pièces d'or. La mère et l'enfant sont très intimes. Elle lui apprend à lire avec ses lettres qu'elle lui a envoyées de ses différents voyages qu'elle a fait seule en laissant son fils avec les domestiques. Leur union, au cours des ans, devient très forte. Il lui arrive de voyager ensemble, de dépenser sans compter, leur fortune est considérable. Le fils aime sa mère plus qu'il ne le faudrait et elle l'aime aussi. Il va au lycée, bon élève, sans problème. Il connaît plus de choses de la vie que les autres de son âge. La vie continue ainsi, cadeaux, caviar, champagne, hôtel de luxe, voyage et un grand amour. Ils forment vraiment un couple et se disent tout. En grandissant, sa mère ne cache plus ses amants. Yves, son fils, les accepte et copine avec eux. Une complicité étrange se fait entre la mère et le fils et ses amants. C'est comme si le fils voulait que sa mère ait des amants pour qu'elle puisse faire avec eux ce que lui ne peut pas faire. Il faut que ses amants plaisent au fils. Elle, cela lui fait rire de demander à son accord. Et ils, les hommes, trouvent cela très excitant.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 39e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.